Eh bien, il y a 75 ans, le 18 avril 1946, Jackie Robinson commence à jouer pour les Royaux de Montréal. C'est la ligue affiliée aux Dodgers de Brooklyn. Il devient ainsi le premier joueur noir de baseball, du baseball professionnel. Je m'en vais rejoindre l'historien et auteur Marcel Dugas. Il a écrit le livre « Jackie Robinson, un été à Montréal ». Bonjour Marcel.
Bonjour.
Et Alexandre Pratt, journaliste à la presse. Bonjour Alexandre.
Bonjour, monsieur.
Alexandre, t'es une quarantaine d'années? T'es pas vieux, toi?
Oui, c'est ça, 43, ouais.
Dis-moi ce qu'il représente pour toi, Jackie Robinson, parce qu'évidemment, toi, tu l'as pas vu jouer, là. C'est...
Non, je l'ai vu sur des vidéos, je l'ai pas vu jouer.
À moins que t'aies voyagé dans le temps, là.
Mais, non.
Mais avec le recul, là, avec le recul, ça veut dire quoi pour toi, Jackie Robinson, qui commence à jouer professionnel à Montréal?
Ben, c'est un grand événement. C'est probablement en fait le plus grand événement de l'histoire du baseball, avec évidemment son premier match dans le vrai baseball majeur. À l'époque, c'était comme l'équivalent du club école de Montréal. Mais c'est un événement qui est vraiment très, très, très important dans l'histoire du baseball. Alors, il y avait eu des Noirs avant Jackie Robinson dans le baseball professionnel au 19e siècle. Mais pas au 20e siècle. Il y avait eu quelques joueurs cubains, là. C'était pas sûr est-ce qu'ils étaient noirs ou pas, mais il y avait quand même une loi non écrite dans le baseball pour évincer les joueurs noirs. Et il y avait des équipes qui n'étaient pas d'accord avec cette règle-là, mais qui n'étaient pas capables de briser la barrière. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats noirs ont combattu aux côtés des soldats blancs. Puis là, même, ça devenait un petit peu ridicule de dire, OK, vous êtes assez bon pour aller avec nous autres à Okinawa ou en Europe, mais vous ne pouvez pas jouer avec nous autres au baseball. C'est là que tout a changé, en fait. Puis en 1945, donc, les Dodgers ont fait signer un contrat à Jackie Robinson. L'année d'après, il est venu jouer à Montréal. T'sais? Puis là, on peut se demander pourquoi Montréal? C'est pourquoi il n'est pas allé jouer à Louisville ou en Californie? En fait, c'est que les Dodgers pensaient que Montréal était une meilleure ville pour accueillir Jackie Robinson que toutes les autres villes qu'il pouvait avoir aux États-Unis. Il faut savoir que dans les années 20, dans les années 30, il y en avait des Noirs qui jouaient à Montréal. Dans les ligues municipales, par exemple, il y avait un club de Noirs. Il y avait eu un joueur noir professionnel à Montréal en 1923-1924. Donc, il y avait un climat favorable à ce que Jackie Robinson vienne jouer à Montréal.
Marcel Dugas, quel a été l'accueil, justement, du public montréalais?
Mais l'accueil, c'est quand même intéressant de noter que dès le moment où il vient jouer son premier match à Montréal, il est le joueur le mieux accueilli de tous les Royaux. Clairement, les Montréalais avaient suivi son épopée depuis sa signature au moment où il signe son contrat en octobre 45. Ça fait des manchettes partout en Amérique du Nord. C'est une énorme nouvelle et on avait suivi toutes les difficultés qu'il avait eues, le camp d'entraînement pour le baseball. Ça se passe en Floride, qui est un des États. Et un État extrêmement ségrégationniste à ce moment-là. D'ailleurs, sa sécurité personnelle va être mise en danger. Il va devoir fuir la ville où avait lieu le pré-camp d'entraînement. C'était à ce point-là. Donc, il y a déjà un capital de sympathie auprès du public. En plus, on a vu le résultat de son match du 18 avril 46, son premier match, où il fait un début triomphal, fracassant, appelez ça comme vous voulez. Donc,
C'est-à-dire, quel a été ce début fracassant?
Mais il y a 4 coups sûrs en 5, il frappe un circuit, 4 points produits, 4 points comptés. Il est la vedette incontestée de cette très belle victoire des Royaux, 14 à 1 dans son premier match. Donc, vraiment, je pense qu'en quelque part, Jackie savait qu'il y avait énormément de gens qui souhaitaient le voir se planter. Il savait que, on le dit souvent dans le sport, c'est important, il faut partir fort, il faut donner le ton. Il a vraiment donné le ton à cette saison-là en connaissant un premier match extraordinaire. Et comme je le disais, à son premier match à Montréal, il est le joueur le plus applaudi, même plus que son coéquipier Stan Brehar, qui lui-même était un Montréalais. Donc vraiment, on l'adopte immédiatement et ça va demeurer tout au long de la saison. Il reçoit un appui inconditionnel du public montréalais.
Et est-ce qu'on va bien performer les Royaux cette année-là? Comment ils vont performer comme équipe?
Il est le meilleur joueur d'une équipe championne. Évidemment, ça aide au support qu'il reçoit à Montréal. Évidemment, on n'a pas vraiment... Si l'équipe avait connu une saison de misère, si lui-même avait connu des performances sur le terrain très médiocres, on ne sait pas trop comment ça aurait pu tourner. Mais vraiment, il est le meilleur joueur de l'équipe et les Royaux connaissent la plus grande saison de leur histoire. Ils remportent tout ce qu'ils peuvent remporter, y compris la petite série mondiale. Donc, c'est la meilleure équipe dans les ligues mineures de baseball en Amérique du Nord cette année-là. Et il est sur les l'équipe d'Étoiles. C'est vraiment une saison parfaite à peu près à tous les points de vue là, en termes de résultats sportifs.
Juste avant de retourner à toi, Alexandre, pour que tu me dises quel a été le... Comment la carrière de Jackie Robinson s'est déroulée par la suite? Une dernière question à vous, Marcel. Est-ce qu'il a gardé une forme de reconnaissance envers Montréal, Jackie Robinson? Quel souvenir? Est-ce qu'il l'a évoqué par la suite, son passage à Montréal? Est-ce qu'il y avait, y a-tu gardé un beau souvenir?
C'est véritablement une histoire d'amour entre Jackie, entre sa femme Rachel, qui était avec lui à ce moment-là, et littéralement la famille Robinson au complet et la ville de Montréal, parce que lui a toujours dit à quel point il avait été bien reçu, à quel point il avait été bien traité. Il va dire par la suite, même si je monte pas dans les majeurs, c'est tant pis, c'est la ville pour moi ici. Il disait, pour moi, Montréal, c'est le paradis, c'est le terme qu'il employait.
Ah oui, paradise, paradise.
Tout à fait. Son épouse Rachel, à de nombreuses reprises, est revenue à Montréal, a dit à quel point elle conservait de bons souvenirs de son passage. Maintenant, ce sont leurs enfants qui viennent ici et rappellent les souvenirs hérités de leurs parents du traitement qu'ils ont reçu des Montréalais et des Québécois pendant leur très court passage, qui date évidemment de 75 ans, mais Montréal n'a pas été oublié. Lui n'a pas été oublié non plus. On le sait, il a une statue, il a deux murales à Montréal. Il est encore très présent après toutes ces années.
Et Alexandre Pratt, Jackie Robinson, dans l'histoire du baseball, dis-je, c'est un monument, là.
Oui, non, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Hein. Ce qui est super intéressant de Jackie Robinson, c'est que le baseball, là, c'était même pas son meilleur sport. Là. Okay? Il est, en 1940, là, c'est le premier athlète de l'histoire de l'Université de la Californie à performer dans quatre sports en même temps. C'est le meilleur porteur de ballon aux États-Unis au football. C'est le meilleur joueur de basketball de la conférence dans laquelle il joue. En athlétisme, c'est un champion américain. Il aurait pu se qualifier pour les Jeux olympiques de 1940. Son frère a remporté une médaille d'argent aux Jeux de 1936. Le baseball, c'est son quatrième sport, en fait. Et il va vraiment exceller. Écoutez, il va commencer dans le baseball majeur à 28 ans. C'est très, très tard. Là. À l'époque, les joueurs commençaient à 20 ans dans le baseball majeur. Mais c'est sûr, si on regarde les statistiques de sa carrière au total, elles ne sont pas aussi extraordinaires que celles de Babe Ruth, par exemple, ou de Pete Rose. Sauf que pendant la courte période de temps où il a été dominant, entre 28 et 35 ans, il était le joueur le plus spectaculaire du baseball majeur. Écoutez, on disait de lui qu'il était un tigre sur les sentiers et un lion au bâton. Mmh. Et c'était pas un frappeur de puissance. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup déposer des amortis, donc des bunts en français. Mmh. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup tirer la balle au champ opposé. Et il a été élu joueur de l'année. Il a remporté des championnats. Écoutez, c'est un voleur de but extraordinaire. On dit qu'il était le meilleur voleur de but depuis Ty Cobb. Donc, le meilleur voleur de but de son temps, il a volé 19 fois le marbre. Le marbre.
Aïe, aïe.
C'est le geste le plus spectaculaire de tout le sport. Il a même volé le marbre à 36 ans. C'est exceptionnel. Et il a été le premier noir joueur de l'année et le premier noir aussi élu au Temple de la Renommée.
Ah, c'est une belle histoire. Quelle belle histoire. Alexandre Pratt, journaliste à la presse. Merci, Alex.
Au plaisir.
Marcel Dugas, historien, auteur de Jackie Robinson, Un été à Montréal. Merci beaucoup, Marcel Dugas.
Ça m'a fait plaisir.
C'est des formidables souvenirs. Hein, c'est beau, hein? C'est une belle histoire. Puis on en a fait partie. Il faut se le rappeler une fois de temps en temps. Il faut se rappeler de ces moments de notre histoire. On s'en va à la pause, puis au retour, on finit ça en beauté avec Valérie Roberts.